Chapitre 15. Chez Joachim Escan. Avant de pénétrer dans le bureau de poste de la place Victor Hugo, Hector Mancel demeura un instant hésitant. Il était déjà 6h20 à sa montre. La fin de l'après-midi était délicieuse. Devant un kiosque à journaux, une dizaine de personnes se pressaient pour acheter les journaux du soir. « Il n'est pas encore là, le brave tabouret !» murmura l'inspecteur, en jetant un regard circulaire sur la place. « Je n'ai malheureusement pas le temps d'attendre. Il faut faire vite. » D'un pas décidé, il pénétra dans le bureau de poste. L'approche de la fermeture avait amené une foule de clients. Il s'approcha d'une employée. « Je voudrais parler à l'inspecteur principal, » dit-il. « Tenez, c'est le monsieur que vous apercevez là, dans le fond. » Hector Mancel se dirigea vers la personne indiquée. Un observateur qui se fût trouvé là et qui eût assisté à cet entretien n'eût pas manqué d'être intrigué. En effet, ce même inspecteur principal, qui avait d'abord témoigné de l'indifférence à la personne du jeune policier, s'était subitement intéressé prodigieusement aux paroles de ce dernier. Le prenant même par le bras, il l'avait entraîné dans un coin, à l'écart, puis après l'avoir attentivement écouté, il l'avait laissé seul, et passant d'un guichet à l'autre, s'était penché à l'oreille de chacun de ses employés. Il était revenu auprès d'Hector, puis il avait recommencé le même manège. Soudain, à un guichet, il s'était longuement immobilisé. Quelques instants après, la jeune femme avec laquelle il venait de s'entretenir s'était levée et, suivant son chef, avait rejoint au fond de la salle le jeune détective. L'observateur dont nous venons de parler n'eût pas manqué également de remarquer par la suite l'animation qui régna entre les trois personnages, à laquelle succéda, au moment de la séparation, un calme inattendu et plein de gravité. Lorsqu'enfin Hector Mancel se retrouva place Victor Hugo, il chercha de nouveau des yeux son ami et collègue André Tabouret. Ce dernier n'était toujours pas là. « Je ne peux tout de même pas l'attendre, » murmura-t-il. « Il s'agit à présent de ne pas perdre une seconde. » Il héla un taxi. « 30 avenue des Lots, » dit-il au chauffeur. Quelques instants après, la voiture s'arrêtait devant un immeuble de riche apparence. « Est-ce que M. Joachim Escan est chez lui ?» demanda l'inspecteur au concierge. « Je l'ignore, monsieur. Je ne l'ai pas vu rentrer, étant absent. »« C'est une excellente raison. À quel étage habite M. Escan ?»« C'est ici, monsieur, la porte en face, au rez-de-chaussée. » Hector Mancel sonna. Un valet de chambre vint ouvrir. « Est-ce que M. Escan est chez lui ?» redemanda Hector. « Si vous voulez attendre un instant, monsieur, je vais voir. De la part de qui ?»« De la part d'Hector Mancel. Vous direz à votre maître, s'il ne se rappelle pas mon nom, que je suis le monsieur qu'il a rencontré à Asnières chez Jean Rivière. »« Bien, monsieur, si vous voulez vous donner la peine d'entrer, je vais voir. » Hector Mancel attendit à peine une minute. « Si monsieur veut me suivre, » fit le domestique, à peine eut-il reparu. L'inspecteur s'engagea dans un long couloir tapissé de dessins, de petits tableaux, de gravures. Au bout de ce couloir, une porte était ouverte. Un homme, dont on ne distinguait pas les traits, placé comme il était à contre-jour, se tenait dans l'embrasure. « Bonsoir, cher monsieur Mancel, » dit-il en s'avançant vers le jeune inspecteur. « Entrez donc, je vous reçois sans façon dans ma chambre, car, comme vous allez vous en rendre compte, je suis en plein préparatif de départ. » « Vous allez donc partir en voyage ?»« Malheureusement, cher monsieur Mancel, quand on est dans les affaires, on ne fait pas toujours ce que l'on aimerait. » La chambre à coucher de Joachim Escamp était luxueusement meublée. Les volets étaient fermés. De nombreuses lampes électriques, disséminées un peu partout et agréablement voilées, répandaient une lumière à la fois douce et vive. « Asseyez-vous donc, cher monsieur Mancel. Justement, je pensais à vous. Je me disais que je serais heureux de vous revoir. J'ai gardé un souvenir si sympathique de notre première rencontre. J'ai gardé également un excellent souvenir de cette rencontre, » fit l'inspecteur en examinant sans en avoir l'air les lieux. « Je voulais vous revoir pour vous poser différentes questions. Imaginez-vous que je n'ai jamais cru une seconde que ce monsieur Pierre Nervray fût l'assassin de cette pauvre Suzy. Vous jugez de ma stupéfaction quand j'ai appris par les journaux qu'il avait avoué être l'auteur de ce meurtre. Or, ce soir, qu'est-ce que je vois en première page des éditions ? Il est revenu sur ses aveux. Je le sais. Qu'en pensez-vous ? Comme vous, je n'ai jamais cru que Pierre Nervray fût le coupable. Mais alors, qui est le coupable ? Vous allez l'apprendre dans une heure. À l'annonce de cette nouvelle, la joie de Joachim Escamp fut si grande qu'il se leva et, s'approchant du policier, lui prit les mains avec effusion. « Vraiment ? Dans une heure, l'assassin sera à la police judiciaire. Pas plus tard ? Non. Quelle chance ! Je connaîtrai donc cet infâme criminel avant mon départ. Vous partez à quelle heure ?
À 9h30.
En effet.
Et à quel mobile a-t-il obéi ? La jalousie, je suppose ?
Non.
C'est un maniaque, alors ?
Non plus.
Vous m'intriguez.
Il faut pourtant que je vous demande un service.
Demandez-moi tout ce que vous voudrez.
D'abord, il faudrait que je sache si vous avez revu Jean Rivière depuis le jour où je vous ai rencontré.
Oui, il est venu chez moi, ainsi qu'il avait été entendu entre nous.
Vous a-t-il cédé les copies qui lui restaient du film des Deux Mondes ?
Oui.
Contre quelle somme ?
2 200 000 francs.
Jolie somme.
Il le fallait, cher monsieur Mansell, il le fallait.
Vous êtes jeune encore, vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Mais quand vous aurez mon âge, vous comprendrez mieux.
Vous avez un reçu ?
Naturellement.
Est-ce que cela vous ennuierait de le prendre avec vous et de m'accompagner à la police judiciaire ?
Tout de suite ?
Non, ce n'est pas pressé, pas avant une heure.
Il sera 7h30. Vous aurez largement le temps de partir à la gare.
C'est que mes bagages ne sont pas prêts.
Dépêchez-vous de les préparer à présent, c'est très important. Je compte beaucoup sur votre présence pour démasquer le coupable.
Je ne vois pas en quoi je pourrais être de quelque utilité.
Je ne peux rien vous dire en ce moment, mais si vous avez un peu d'esprit de devination, vous devez comprendre.
Jean Rivière.
Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas vous répondre pour le moment. Je suis un homme et par conséquent faillible. Je peux me tromper. J'aime mieux avoir la certitude de ce que je soupçonne être la vérité.
Puis, pour changer de conversation, Hector Mansell demanda à son hôte une cigarette.
Ce dernier sonna son valet de chambre.
« Firmin, dit-il, apportez les cigarettes qui sont restées dans mon bureau.
En outre, je vais être obligé de m'absenter. Vous terminerez en mon absence mes bagages et vous me les apporterez vous-même à la gare du Nord où vous m'attendrez. C'est entendu ?
Oui, monsieur.
Mais, au fait, remarqua Hector Mansell, vous semblez ignorer que M. Pommier s'est suicidé, et cela d'une manière tragique.
Non, non, je ne l'ignorais pas.
Ne trouvez-vous pas cela frappant ?
Je trouve cela bouleversant.
Imaginez-vous que je me suis trouvé à côté de lui durant tout l'enterrement. À un moment, je me suis penché vers lui pour lui dire à quel point cette cérémonie me brisait le cœur, lorsque tout à coup, j'ai eu conscience qu'il avait perdu la raison. Il semblait ne pas comprendre ce que je lui disais. Puis, comme un fou, il s'est enfui. Il y avait vraiment une fatalité qui pesait sur cette famille.
En effet,
cette mort, après celle de la pauvre Suzy, prend un caractère encore plus tragique. Si vous saviez comme ce père aimait son enfant, il n'avait Dieu que pour elle. Il rêvait les plus hautes destinées pour elle. Et, une nuit, elle est lâchement assassinée. Il y avait vraiment de quoi bouleverser l'âme de ce petit bonhomme, d'autant plus qu'elle était son unique soutien. Dans le coffret d'ébène que Firmin avait déposé près de lui, Hector Mansell prit une nouvelle cigarette.
« Il serait peut-être temps d'aller quai des Orfèvres à présent, si vous voulez prendre votre train, » observa le jeune inspecteur.
« Est-ce que ma présence est vraiment nécessaire ?»«
Absolument. »
Je vous avouerai pourtant que cela m'est un peu désagréable.
Pourquoi donc ?
J'avais quelques petites courses à faire.
Oui, je comprends. Mais il ne faut pas que vous perdiez de vue qu'il s'agit de venger une femme que vous avez beaucoup aimée.
Je le sais, mais je ne suis pas un justicier.
Écoutez, monsieur Escamp, c'est l'affaire d'une demi-heure au plus. Vous pouvez bien faire cela pour moi, car je ne vous cacherai pas que c'est moi qui juge votre présence indispensable.
Soit.
Surtout, n'oubliez pas le reçu de Jean Rivière, c'est très important.
Il est dans mon portefeuille.
Très bien. Monsieur Escamp quitta sa robe de chambre, mit son veston, se regarda quelques secondes dans une glace. Un certain contentement était visible sur son visage, en dépit de la mauvaise grâce qu'il apportait à accompagner le jeune inspecteur. Il ne pouvait se défendre d'un sentiment de fierté de jouer un rôle dans une affaire qui passionnait l'opinion publique.